Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. ActuVu, c'est le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui reprend toute l'actualité de la semaine. On est de retour après une semaine sans ActuVu et aujourd'hui on va tenter de rattraper cette semaine d'absence. Pour ce faire, Paul nous parlera de la visite officielle du président chinois Xi Jinping sur le territoire français. Par la suite, Jérémy tentera de nous expliquer pourquoi la situation en Géorgie est plus tendue que jamais. Atos, le géant de l'informatique, est en grande difficulté. Pierre reviendra plus en détail sur ce qui ressemble à une véritable catastrophe économique. Ensuite, on se dirigera du côté de la Ligue 1 et une fois de plus, on parlera du sujet épineux des droits télé. Du côté des recos, cette semaine, Anatole nous dressera le bilan du classement mondial de la liberté de la presse. Mais avant tout, c'est le Affluoté présenté par Hugo Reynaud.
Bernard Pivot est mort, il s'est éteint le 6 mai à l'âge de 89 ans. Figure du journalisme littéraire, il avait créé l'émission Apostrophe qu'il a animée de 1975 à 1990, un rendez-vous incontournable pour les écrivains à l'époque. De 2014 à 2019, Bernard Pivot a également été le président de l'Académie Goncourt qui décerne le prix littéraire le plus prestigieux en France. La pression s'accentue sur la bande de Gaza et les Palestiniens. L'armée israélienne mène une offensive dans la ville de Rafah, située à la frontière avec l'Égypte. Les chars de Tsahal ont pris possession du point de passage entre l'enclave palestinienne et la ville égyptienne limitrophe. Une offensive qui intervient alors que le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu du Qatar et de l'Égypte. Une offre jugée loin des exigences par Israël. Le PDG du groupe Lagardère, Arnaud Lagardère, a annoncé quitter ses fonctions. Le chef d'entreprise a été mis en examen pour diffusion d'informations fausses trompeuses, achat de votes, abus de biens sociaux ou encore abus de pouvoir. Il est soupçonné d'avoir utilisé les comptes de ses sociétés pour ses dépenses personnelles pendant plusieurs années.
Un préavis de grève à Radio France a été annoncé pour le dimanche 12 mai.
Il a été déposé quelques jours après la suspension de Guillaume Meurice. L'humoriste avait réitéré ses propos sur Benjamin Netanyahou qu'il avait qualifié de nazi sans prépuce. Une intersyndicale dénonce la répression de l'insolence et de l'humour sur les ondes de la radio publique. Le mouvement veut défendre la liberté d'expression ainsi que l'identité et la singularité de ses chaînes. Le Belém arrive le 8 mai à Marseille. Dans les soutes de ce bateau, la Flamme Olympique qui est partie d'Athènes le 27 avril pour rejoindre la France. Le Belém est un prestigieux navire français construit en 1896. Ce voilier à trois mâts sera accueilli par un millier de bateaux à son arrivée dans la cité phocéenne, ainsi que par des milliers de spectateurs.
Le PDG de la SNCF quittera son poste après les Jeux Olympiques.
Le gouvernement a fait cette annonce ce mardi dans un communiqué. Jean-Pierre Farandou n'est pas reconduit pour un deuxième mandat à la tête du groupe ferroviaire français. Son mandat devait se terminer normalement le 13 mai, mais il a été prolongé de quelques semaines pour les JO, alors qu'il souhaitait continuer dans ses fonctions. Aucune raison officielle pour sa non-reconduction n'a été communiquée. Et une info basket pour finir, Victor Wembanyama a été élu à l'unanimité comme le meilleur débutant de l'année en NBA. Un exploit pour ce jeune de 20 ans qui devient le premier Français à remporter cette distinction.
Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi ! Mais qui elle est celle-là ?
Quelle indignité.
Cela faisait 5 ans que le président chinois Xi Jinping n'était pas venu en France, une rencontre d'État de 2 jours bien chargée, Paul.
Oui, arrivé dimanche soir en compagnie de sa femme, Xi Jinping a retrouvé l'Élysée et Emmanuel Macron ce lundi. Au programme rencontre avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avant le déjeuner, les relations notamment commerciales entre la Chine et l'Union européenne ont été le thème central des débats. Et Ursula von der Leyen a prévenu, l'UE n'hésitera pas à prendre des décisions fermes si nécessaire, pour protéger son économie et sa sécurité.
Emmanuel Macron et Xi Jinping ont eu de nombreux sujets de discussion sur ces deux jours.
Trouver une solution pour l'Ukraine, régler les différends notamment commerciaux entre l'UE et la Chine. Les enjeux sont nombreux pour Xi Jinping de retour en France. Il a également été question d'un soutien chinois à une trêve olympique pour l'ensemble des conflits à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été. Paris veut à minima s'assurer que la Chine, principal allié du président russe Vladimir Poutine, ne bascule pas dans un soutien clair à l'effort de guerre face à Kiev.
Et hier, pour sa dernière journée, le président chinois était dans les Hautes-Pyrénées avec Emmanuel Macron.
L'objectif de ce déjeuner sur le col du Tourmalet, là où, enfant, Emmanuel Macron passait ses vacances chez sa grand-mère, est éminemment diplomatique. Casser l'imposant protocole pour instaurer un dialogue plus direct, notamment sur l'Ukraine. Une escapade personnelle qui passe mal dans l'opposition. Mardi matin, Raphaël Glucksmann a déclaré « L'homme qui déporte les Ouïghours, qui réprime les Hongkongais et les Tibétains n'est pas notre ami ».
Le plan Ecophyto 2030 a été présenté lundi par le gouvernement, mais Paul, que contient-il ?
Arthur, déjà, il conserve l'objectif de réduction de 50% des produits phytosanitaires d'ici 2030. On parle là d'un plan qui avait été mis sur pause en février suite aux manifestations des agriculteurs. Il comprend également une enveloppe de 250 millions d'euros pour les agriculteurs et une surveillance accrue des eaux.
La Cour des comptes épingle la France sur la santé périnatale.
Face à des résultats sanitaires médiocres pour la périnatalité, c'est-à-dire la période entre la 28e semaine de grossesse et le 7e jour après la naissance de l'enfant, la France doit améliorer la qualité et la sécurité de l'offre de soins. C'est la conclusion ce lundi d'un rapport de la Cour des comptes qui recommande notamment de se pencher au cas par cas sur les petites maternités. La Cour relève qu'une vingtaine de maternités dérogent toujours au seuil minimal de 300 accouchements annuels.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream. Be you. Be proud of you.
En Géorgie, des manifestations s'intensifient après le passage d'une loi sur l'ingérence étrangère. Pourtant, le gouvernement ne veut pas plier face aux manifestants, Jérémy.
Oui, la Géorgie a une histoire particulière avec l'Europe et la Russie. Dernièrement, une loi vise à qualifier d'organisation servant les intérêts d'une puissance étrangère tout média ou ONG financé à plus de 20% par l'étranger. Une loi inspirée d'un texte russe et qui ne permettrait plus l'entrée du pays dans l'Union européenne. Pourtant, 80% des Géorgiens sont favorables à cette intégration dans l'Union européenne. Ce sont ceux qui défilent par milliers dans les rues de la Géorgie depuis un mois.
Mais alors, pourquoi cette loi ?
La présidente Salomé Zourabichvili, qui est une ancienne diplomate française, accuse le Premier ministre ainsi que le président du parti au pouvoir, Bidzina Ivanichvili, d'agir sous influence russe. Ce dernier a d'ailleurs récemment fortement attaqué les Occidentaux. Moscou occupe toujours 20% du territoire géorgien depuis 2008. Pourtant, le parti au pouvoir, le rêve géorgien, affirmait être toujours pro-européen, même s'il accumule les signaux favorables envers la Russie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le parti de gouvernement menace de répression l'opposition, y compris pour les prochaines élections l'an prochain.
Autre pays, mais autre régulation des médias, Al Jazeera vient de fermer en Israël.
Et oui, la décision subvient alors qu'en Israël aussi, un projet de loi interdisant la diffusion de contenu de médias étrangers a été voté en avril. Le gouvernement israélien accuse les journalistes de la chaîne Qatari d'être des agents terroristes affiliés au Hamas. Al Jazeera dénonce un acte qui viole le droit humain et l'accès à l'information. La chaîne ainsi que ses sites sont pour l'heure bloqués en Israël.
Enfin, en Écosse, un nouveau leader pour les indépendantistes.
John Swinney. Il sera le prochain Premier ministre, alors que son parti est extrêmement divisé. Après le départ de Nicola Sturgeon, qui est resté au pouvoir 9 ans, le parti connaît une crise interne. Avec l'arrivée de John Swinney, vice-premier ministre, pendant la même période, les indépendantistes espèrent se relancer, surtout après le veto de Londres sur la possible indépendance de l'Écosse, et alors que les travaillistes gagnent du terrain dans les sondages.
Elon Musk.
Qui, pour sauver Atos, le géant de l'informatique en difficulté financière depuis plusieurs mois, va échapper de justesse à la faillite, mais ça passera par la vente de ses activités.
Oui, mais d'abord, je suis sûr que ce nom Atos ne vous dit pas grand-chose. Pourtant, c'est un géant, l'une des 10 plus grandes entreprises du numérique dans le monde. Une boîte française fondée à la fin des années 90. Elle emploie 100 000 personnes et génère plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ses activités se concentrent autour de la cybersécurité et la gestion de serveurs informatiques pour les entreprises.
Et donc ce géant de l'informatique est en difficulté ?
Oui, il est carrément au fond du gouffre. 4,9 milliards d'euros de dettes et l'action du groupe vaut aujourd'hui 2 euros, 97% de moins qu'il y a 5 ans. Il faut se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe.
Mais alors pourquoi cette entreprise intéressante ?
Alors c'est simple, l'entreprise s'occupe de la cybersécurité des Jeux de Paris, de nos centrales nucléaires et de l'armée. En gestion informatique privée, c'est la SNCF et les compteurs Linky, donc c'est plutôt une clientèle solide. Atos, c'est des intérêts stratégiques énormes en matière de défense. C'est pour ça que l'État s'est positionné pour acquérir les activités souveraines de l'entreprise. Aujourd'hui, deux candidats réels se détachent pour le rachat. D'un côté, David Layani, fondateur de OnePoint, conseiller informatique, est déjà actionnaire du groupe à hauteur de 10%. Et de l'autre, le tchèque Daniel Kretinsky, qu'on ne présente plus en France. Airbus s'est en revanche totalement retiré de la course. Ce qui est sûr, c'est que la bataille pour Atos s'annonce féroce et quoi qu'il arrive, l'État veille à ce que l'entreprise ne tombe pas entre de mauvaises mains.
Un célèbre journaliste de France Info mis dehors par Radio France.
Oui, toi tu t'es au moins déjà une fois lancé les informés sur France Info à partir de 20h. Eh bien, à partir de maintenant, tu n'entendras plus Jean-François Akili, le journaliste vedette et présentateur de l'émission, est licencié officiellement du service public. Le groupe audiovisuel public reproche au journaliste d'avoir envisagé une collaboration avec le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Ce dernier nie les accusations en bloc.
Et la chasse à l'alouette prend du plomb dans l'aile.
Oui, c'est un jour funeste pour les bons et les mauvais chasseurs. Le Conseil d'État vient de rendre un arrêt qui ne va pas plaire aux amateurs de chasse avec des pentes ou des matoles. La plus haute juridiction administrative française a confirmé sur le fond que la chasse à l'alouette est non conforme au droit européen. Il juge que ces types de chasse risquent d'entraîner des captures accidentelles non négligeables d'autres oiseaux.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi, tu me parles pas d'âge.
I recoup the ball.
Les droits de la Ligue 1 n'ont toujours pas de repreneur. Sollicité par beIN Sport pour participer à l'acquisition des droits de la Ligue 1, Canal+ ne se presse pas, Valentine.
C'est encore pire. Canal+ ne sera pas le fossoyeur du football français, prévient Maxime Saada. Le directeur du groupe Canal+ a de nouveau confirmé que la chaîne n'avait pas participé au prochain appel d'offres pour les droits télévisés de la Ligue 1 de 2024 à 2029. Personne ne sait donc encore sur quelle chaîne regarder la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. La question des droits télé est une question épineuse. Aujourd'hui, Canal+ a anticipé la perte de la Ligue sur ses antennes. En témoignent les 480 millions d'euros annuels misés sur les droits des Coupes d'Europe de football.
Ça ne laisse plus grand monde en course pour le rachat des droits télé.
Eh ben non, vraiment plus grand monde effectivement. Déjà, le service de streaming sportif anglais DAZN n'est plus dans la course, faute de pouvoir investir plus de 500 millions d'euros par an sur la Ligue 1. Canal+ ne semble plus vraiment intéressé. Il ne reste donc que la chaîne beIN Sport. Elle devrait remporter la mise très bientôt.
Des chiffres et des lettres, c'est fini. L'émission mythique sera remplacée par le jeu des 1000 euros. La nouvelle grille de France Télévisions est ébranlée.
Après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services, puisque le programme existe sous sa forme originale depuis 1972. Des chiffres et des lettres, c'est également l'une des plus anciennes émissions d'Europe. Elle s'est exportée dans de nombreux pays, de la Belgique à l'Australie. Le rendez-vous quotidien des Français n'était déjà plus diffusé que le week-end depuis la rentrée 2022. Cette disparition marque la fin d'une ère à la télévision.
Du côté du Festival de Cannes, un collectif de travailleurs du cinéma appelle à la grève à une semaine de l'ouverture.
C'est un appel rarissime. Le collectif des travailleurs sous les écrans La Dèche ne remet pas en cause l'ouverture ou la tenue du festival lui-même. L'objectif de cet appel, perturber le plus grand événement du 7e art et être surtout entendu. Le collectif a réuni une cinquantaine de membres en assemblée générale pour voter cette grève. Déplorant une précarité grandissante de leur métier, ils demandent à pouvoir accéder au statut d'intermittent du spectacle, dont beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
Le classement mondial de la liberté de la presse 2024 est sorti. Comme chaque année, il est réalisé par l'association Reporters sans frontières qui milite pour les droits des journalistes partout dans le monde. Anatole, il y a quoi dans le classement cette année ?
Eh bien, un triste constat, Arthur. Voilà ce que dresse le nouveau bilan de Reporters sans frontières qui a été publié la semaine dernière. Au total, ce sont 180 pays qui ont été comparés et la méthodologie de l'association se base sur 5 critères. Le contexte politique, le cadre légal, le contexte économique, le contexte socioculturel et la sécurité. Ces 5 points donnent lieu à une note, et donc, plus celle-ci est basse, plus la liberté de la presse dans le pays en question est mauvaise. À l'inverse, plus elle est élevée, plus les journalistes peuvent pratiquer leur métier librement et en toute sécurité.
Bon allez, fin du suspense, la France est classée combienième ?
Et roulement de tambour, la France se place à la 21e place avec une situation plutôt bonne. Si cette place ne fait pas rêver, l'Hexagone progresse. Il était à la 24e place l'année dernière. Sur le podium, on retrouve la Norvège, qui se hisse en tête du classement pour la 8e année consécutive. Elle est suivie par le Danemark et la Suède. Et de l'autre côté du classement, on retrouve l'Érythrée, qui figure dernière, suivie de la Syrie et de l'Afghanistan.
Et si au Global Reporters sans frontières constate que la liberté de la presse a reculé dans le monde cette année, il y a une raison.
Et cette raison, c'est des élections présidentielles dans la plupart des pays du globe. En 2024, l'information est un enjeu d'autant plus crucial pour convaincre les près de 4,1 milliards de citoyens appelés aux urnes. En effet, la Russie, le Bangladesh, le Pakistan ou encore l'Inde ont serré la vis auprès des journalistes. RSF s'est d'ailleurs dit inquiet sujets concernant le Mexique et les États-Unis qui éliront également leur nouveau président cette année. Petit rappel peu joyeux pour conclure, à l'heure où je vous parle, 12 journalistes ont été tués depuis le début de cette année 2024 et 544 sont toujours emprisonnés.
Merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses pour leur participation, également à Mathieu, à la régie, et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve vendredi prochain pour le dernier épisode de la saison.